Bienvenue sur RCF Vendée si vous venez de nous rejoindre. RCF Vendée, vous le savez, première radio chrétienne et de proximité en Vendée. Ce soir, nous allons nous intéresser à un grand projet qui fait polémique en Vendée depuis de nombreuses années, le projet de porte de Bretignolles-sur-Mer. Voilà depuis 2001 que ce projet est porté par le maire de la commune, président aussi de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles, Christophe Chabot. Et il s'agit alors d'un port de plaisance de 915 anneaux, étendu sur 20 hectares, sur le site de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer. Il serait un complément au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et des Sables-d'Olonne s'il devait se faire. Un projet estimé à 43 millions d'euros, financé par un emprunt de 31 millions d'euros, mais aussi de subventions de collectivités publiques. Et enfin par la location sur 20 ans de 150 anneaux. Nous en parlons ce soir puisque ce projet est actuellement soumis à une enquête publique depuis le 6 août dernier et ce jusqu'au 29 septembre prochain. Le projet avait déjà été soumis à une enquête publique et les commissaires enquêteurs avaient émis un avis défavorable contraignant le porteur de projet à revoir sa copie. Un projet qui a toujours cristallisé les opinions. Depuis le départ, certains s'opposent à ce projet car ils y voient une catastrophe écologique majeure. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi avec notre invité ce soir, Jean-Baptiste Durand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF Vendée. Jean-Baptiste Durand, vous êtes le président de la Vigie. La Vigie, c'est une association qui a été créée il y a 16 ans en réponse, en opposition à ce projet de port de Bretignolles. Vous êtes opposé, je l'ai dit, pour des raisons tout d'abord écologiques. Est-ce que c'est les seules raisons pour lesquelles vous vous opposez à ce projet ?
Principalement, il s'agit effectivement de lutter contre un investissement sur un terrain qui est non compatible, environnementalement parlant, avec un tel ouvrage.
Quels sont vos arguments pour dire que ce projet est écologiquement néfaste ?
Il s'agit d'une zone déjà qui devrait être protégée au-delà de ce qu'elle est protégée actuellement. Actuellement, il s'agit d'une SNIEF. Elle a été aussi actée comme étant une coupure d'urbanisation dans le POS de 1998. Donc, d'ores et déjà, que le PLU n'étant toujours pas rendu exécutoire, il serait normal que la coupure d'urbanisation déjà soit maintenue dans le nouveau document d'urbanisme et qui, bien entendu, déjà freine la capacité d'introduire un tel ouvrage dans cet endroit.
Une ZNIEF, qu'est-ce que c'est ?
Une ZNIEF, c'est une zone naturelle, faunistique et floristique, qui donc doit avoir des protections, mais surtout, avant de faire quoi que ce soit, doit respecter un certain nombre de règles.
On a une carte face à nous, et justement, ça nous montre un peu le site. Alors Jean-Baptiste Durand, expliquez-nous un peu où est-ce qu'on est. Je crois qu'on est sur le site de la Normandelière.
Nous sommes avec cette carte en face, si vous voulez, du plan global, donc de la situation de l'emprise du projet. Donc nous avons deux façons de le comprendre, la façon maritime et la façon terrestre, car il s'agit ici d'une innovation dans la création d'un port de plaisance, c'est d'amener la mer dans les terres. Ça déjà, pour commencer, c'est l'une des objections majeures que nous formulons quand nous discutons sur cette question.
Car en fait, on creuse dans les terres pour faire venir la mer et créer en fait un port de plaisance artificiel, contrairement à d'autres ports où on les a fait sur la mer et on a construit des digues. Par exemple, je pense au port de Bourgenay, ça ressemblerait à ça.
Oui, en général, les ports sont réalisés dans des rias ou dans des abers, si vous voulez, creux en profond de la côte, ou en pleine mer directement avec des digues. Ici, il s'agit pour une fois d'aller faire un trou dans les terres, c'est-à-dire derrière la dune, derrière la partie hors maritime. Et là, il s'agit quand même d'un bassin de 9 hectares sur une profondeur de 14 mètres qui va être installé. Donc, il y a, tout d'abord, il y a le problème géologique du terrain. Il y a sa nature, il y a son classement, il y a beaucoup d'objections déjà qui sont là immédiates. À partir de là, donc, la partie maritime, si nous la considérons, elle-même, elle fait partie d'un classement important puisque le projet de Chenal va aboutir sur une zone protégée, une ZPS, comme on dit, qui est donc Natura 2000 jusqu'à l'île-Dieu à partir de la plage. On a donc là, si vous voulez, une atteinte directe à des choses absolument importantes qui sont quand même d'un classement absolument interdisant cela. Il faut une autorisation pratiquement européenne pour aller souiller ou se saisir de cet endroit. Donc l'espace maritime public, ici, va être un enjeu, si vous voulez, considérable pour donner une autorisation, car là, il faut une autorisation d'ordre majeur. Donc, il ne s'agit plus d'un petit projet local que l'on fait comme ça entre nous, décideurs. Non, non, là, il s'agit de demander à très haut niveau, si vous voulez, l'autorisation d'investir ce territoire. Pour ce qui concerne les terres à l'intérieur, cet espace devrait être protégé et interdit de toute construction et de tout investissement donc, d'aménagement, à part évidemment des choses absolument nécessaires pour des activités qui seraient définies comme utiles et ou d'intérêt général. En ce qui nous concerne ici, il y a une zone de loisirs tout proche, avec la dune protectrice qui sépare la partie terrestre de la partie maritime. Et là, ici, à cet endroit, il y a déjà un espace de loisirs qui a un petit peu d'aménagement pour une école de voile, pour permettre l'accès à la plage. Et donc, en conséquence, il ne s'agit pas du tout d'une infrastructure comme celle d'un port de plaisance, avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
Et comment ça se fait qu'il y a pu y avoir, à l'époque, alors, la construction d'une une zone de loisirs dans une zone qui était protégée ?
Alors, pour les zones à protéger, par exemple, nous pouvons parler des différents niveaux. Donc, une SNIEF, si vous voulez, c'est un certain niveau. En dessous, vous avez Natura 2000, qui est un autre niveau. Et là, à chaque fois, si vous voulez, il n'est pas interdit de quelques aménagements, mais ils sont simplement très réglementés. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut demander des autorisations ou justifier la raison pour laquelle on va investir ce lieu. Ici, pour une zone de loisirs, des aménagements légers et nécessaires, si vous voulez, à l'exploitation, qui permettent de cadrer et de protéger la zone, sont possibles. Donc là, ils ont été donc, pris dans ce sens-là. D'ailleurs, l'aménagement, par exemple, du petit plan d'eau, fait partie de cela. C'est un plan d'eau en eau de mer qui est à 200 mètres de la plage, il n'y a même pas cette distance-là, et qui a été donc installé sur l'arrière de la dune avec l'arrivée donc de franchissement pour accéder à la plage, par exemple.
Et ça date de quand ?
De 1990. Là, à cette époque, la dune avait été même renforcée pour la pérenniser, en quelque sorte. Et le projet, lui, ben, au contraire, il va détruire cette dune, puisqu'il faut l'échancrer, enfin, la fendre sur 140 mètres de large, avec une profondeur pour faire passer l'eau de mer et qu'elle puisse atteindre les bassins à l'intérieur des terres. Donc, cette dune qui protège aujourd'hui le littoral, qui est essentielle à notre sécurité aussi à l'arrière, elle va être donc détruite par cet ouvrage, et en plus, donc, les sécurités concernant des avaries de surcote comme celle de Xitia, où on peut très bien imaginer que là, c'est la porte ouverte à une catastrophe dans le bassin.
Donc, si on résume, donc, il y a la zone de loisirs existante, c'est ce qu'on appelle la zone de la Normandelière, oui, va disparaître dans ce projet de port, et va laisser donc la place à un port assez, assez grand qui va profondément dans ces terres, dans ces zones de marais qui sont protégées selon vous. Alors voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de concilier tout de même écologie et puis installation humaine ?
Je voudrais bien dire oui, mais ce n'est pas possible.
Pourquoi ?
Très simplement, le lieu, si vous le regardez, vous l'examinez, il interdit directement, tout de suite, d'emblée, parce que nos règlements et nos lois ne le permettent pas. La loi littorale ne permet pas ça. Directement, il faut quand même regarder d'abord les articles de loi qui nous régissent, et nous devons lui obéir, ou alors il faut changer les lois. Donc, moi, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Donc, c'est pas possible sur ce terrain d'investir cet ouvrage. Dès le début, le promoteur, enfin, l'instigateur, enfin, le maître d'ouvrage pour ce projet, le savait. C'est ça qui est étonnant. Car les premières études de leur conseil, notamment le cabinet Sogrea, qui a fait une étude de faisabilité dès le début en 2003, a donné dans son rapport une indication très précise sur cette question en disant que le promoteur allait vers des ennuis juridiques très, très importants. Et que nous, derrière, en créant l'association à ce moment-là, nous avons fait les mêmes examens, nous avons consulté et nous avons obtenu ces réponses aussi. Donc nous savons que ça ne convient pas sur ce terrain-là d'ouvrir la dune déjà de cette façon, d'aller investir une profondeur comme celle-ci dans un terrain qui, géologiquement parlant, est très 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 complexe. D'ailleurs, nous le démontrons aujourd'hui avec des études qui sont faites et puis des avis qui sont donnés par des hydrogéologues de renom. Donc là, ici, on a vraiment un véritable problème avec la carrière et la zone humide. La zone humide, au tout début, nous avons toujours dit que c'était un handicap majeur, qu'on ne pouvait pas faire ça sur une zone humide. On nous a donné raison, puisque les commissaires enquêteurs de 2011 ont donné un avis défavorable au projet, si bien qu'il a été retiré par la mairie pour en refaire un second, qui, lui, à ce moment-là, propose de décaler les bassins vers le sud de façon à épargner, soi-disant, la zone humide. Mais il n'en est rien, puisque nous creusons à 14 mètres de profondeur, en pensant à partir de là, sur 9 hectares. Ce qui fait que toute la zone hydrique et hydrologique va être modifiée. Et là, vous avez une pénétration de l'eau de mer dans les terres qui va s'investir probablement dans tous les fissures et les sources et les veines d'eau souterraines, et la nappe phréatique sera donc polluée et investie d'eau de mer. Nous savons que les hydrogéologues sont formels là-dessus, et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des scientifiques. Donc de ce point de vue, déjà aussi, matériellement parlant, cet ouvrage, il est condamné à avoir des conséquences incroyables.
Sur la géologie, alors.
Sur la géologie, je pourrais ajouter que ce territoire fait partie des zones décrites comme étant à protéger dans sur ce plan géologique, parce que nous avons ici un classement géologique de très grande importance, et nous sommes dans ce territoire, dans ce périmètre. Sauf que le décret de délimitation, si vous voulez, n'est pas signé aujourd'hui par l'État. Nous avons demandé au ministre dans quel délai cela se ferait. D'ailleurs, l'autorité environnementale qui a remis son avis dans cette enquête publique le signale et le demande dans quel délai cette prescription de zone serait faite. Et là, nous avons interrogé le ministère pour cette raison. Donc, même sur votre responsabilité, en principe, nous sommes sur un territoire qui serait protégé aussi de ce point de vue.
Donc selon vous, ce projet se construit sur des bases illégales, sur le point de vue de la loi de protection du littoral.
Si on additionne les points sur lesquels, juridiquement parlant, il y a des raisons d'en discuter, effectivement, il y a une convergence d'éléments, un faisceau d'indices extrêmement lourds, qui finiront probablement, peut-être d'ailleurs, justement, dans les recours. Car il faut bien comprendre qu'un projet comme celui-ci va s'exposer au recours. C'est une évidence.
J'allais vous poser la question. Ça veut dire que vous devez être assez confiant pour l'avenir. Alors, vu que vous êtes opposé, vous avez la loi avec vous, selon vous.
Oui, nous avons sans doute la loi avec nous. Mais ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est un peu irritant. C'est que nous avons des responsables qui sont engagés dans un projet comme celui-là en connaissance de cause. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un problème de conscience des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Et cela, c'est beaucoup plus important parce qu'il en va de la conscience de chacun d'entre nous. Car, à l'évidence, avec tous ces éléments-là qui sont analysés depuis 16 ans maintenant, il est impensable qu'on ne prenne pas une décision d'arrêt absolu immédiat et arrêter les gaspillages. Nous en sommes à 7 millions de dépenses pour ce projet. Ces 7 millions, ce sont de l'argent des contribuables de la collectivité. Donc, par conséquent, il est évident de comprendre que cet argent ne revient pas à ces contribuables et n'intéresse pas le développement de notre cité, à nous, avec notre argent. Il est parti ailleurs, bien sûr, il a donné des emplois, il a donné des cotisations, il a donné des... C'est le système économique qui veut cela. Mais cet argent, nous, on veut bien qu'il soit dépensé, mais d'abord à la collectivité qui l'a produit. Et là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça. Alors, cette histoire donc, de projet, compte tenu de tout ce que nous savons sur sa nocivité en capacité, et donc les règlements qui sont en travers aussi, de bonne foi et de bonne conscience, ça aurait dû être arrêté déjà. Et ça, c'est assez irritant pour les adhérents de notre association. Quand on regarde, nous, dans le détail, si vous voulez, nous comprenons le dossier. Malheureusement, nous ne sommes pas suffisamment nombreux, peut-être. Mais ce n'est pas le nombre qui fait la qualité de l'analyse. L'analyse, nous l'avons, elle est complète. Puisque nous n'arrêtons pas par des hommes de conscience directement le projet au vu de tout cela, eh bien évidemment, il faudra aller voir le dernier élément qui probablement sera donc le juge. Et l'administration de justice.
Et Jean-Baptiste Durand, il y a tout de même des enjeux économiques aussi. Derrière la création d'un port, ça va apporter des investissements financiers, du travail, des emplois.
Oui, ça rentre dans le cadre de ce que je viens de dire. Si vous comprenez que le projet est à 41 millions, attendez, il faudra enlever les 7 millions déjà engagés, ça fait qu'on serait en train de dire qu'on va faire l'ouvrage pour 35 millions. Parlons-en. Oui, ça donne de l'argent, ça donne des revenus aux entreprises qui vont participer à l'ouvrage, mais nous en sommes loin du compte, parce que là, nous parlons d'argent, eh bien, parlons aussi de la capacité d'investissement d'une collectivité. Nous pouvons aussi parler de ce que coûtera réellement cette affaire, car les chiffres qui nous sont avancés pour faire un plan business qui serait rentable immédiatement, en se disant, encore pas sur le marché, ça c'est beaucoup d'annonces affirmatives sans preuve, remplir le 915 anneaux la première année, c'est infaisable. Donc de fait, si vous voulez, les chiffres qui nous sont donnés pour faire réaliser cet ouvrage sont trop petits, sont trop faibles. On nous ment sur cette question. C'est très clair. Donc il faudra compter sur un coût de revient de l'ouvrage nettement supérieur à ce qui est annoncé. Et de fait, tout le plan business tombe, c'est-à-dire la rentabilité et l'argent qu'on pourra en tirer. Donc économiquement parlant, je veux bien que donne de l'ouvrage à des entreprises pour faire l'ouvrage. Ça, c'est vrai. C'est un... Bon, OK, on est d'accord. Sauf que pour ce qui concerne la rentabilité et le rapport de résultats à venir... D'abord, il faudra comprendre que c'est au bout de 20-25 ans, après avoir payé les emprunts. D'ici là, on aura des coûts d'entretien qui vont venir et qui vont s'emparer des nouvelles recettes qui arriveront. Donc c'est un système quand même extrêmement complexe et inefficace pour dire qu'on fait de l'économie locale et participative, disons, d'une collectivité. Donc ici, si nous parlons d'objection, nous ne sommes pas contre les ports. Ça n'a rien à voir. Nous sommes contre un port à cet endroit-là. C'est le lieu qui ne permet pas l'ouvrage. Ce n'est pas du tout que nous soyons contre l'économie et le développement. Nous avons besoin tous, dans notre société telle qu'elle est organisée, l'objectif de développement. Non, mais là, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire, si nous voulons faire du développement économique, ce n'est pas à cet endroit qu'il faut mettre un ouvrage comme celui-là. C'est ça le principal, c'est ça qu'il faut comprendre.
Ni d'une opposition frontale à Monsieur le maire ?
Ah non, il ne s'agit pas de ça. Monsieur le maire ou un autre, nous lui dirions la même chose. Ce n'est pas...
C'est un peu la critique qu'on vous fait souvent.
Ah ben c'est facile de nous coller l'idée qu'on veut prendre sa place ou que nous sommes jaloux. J'en entends toutes les couleurs, vous savez, de ce point de vue. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Soyons sérieux. Nous posons des problèmes qui sont factuels, qui sont le constat de ce qui est exactement. Nous ne nous intéressons pas, si vous voulez, à l'idée des personnes, nous sommes à l'idée du projet lui-même.
Jean-Baptiste Durand, je le rappelle, vous êtes président de la Vigie, cette association qui s'oppose donc à la création de ce port de Bretignolles. Nous sommes bientôt à la fin de l'enquête publique, le 29 septembre. Tout le monde peut y participer, soit en se rendant dans les permanents, soit sur le site internet de la préfecture de Vendée, ou bien au siège de la mairie de Bretignolles ou de la communauté de communes à Givran. Jean-Baptiste Durand, qu'est-ce que vous demandez, vous ? Qu'est-ce que vous demanderez ? Quel est votre but ?
Eh bien, c'est très simple. Nous demandons l'abrogation du projet. Notre but, et ce que nous définissons d'ailleurs dans la charte de notre pétition qui existe sur notre site internet depuis toujours, elle demande d'abord l'abrogation du projet et le secondo, remettre les classements dans l'ordre de la qualification de la zone. Nous estimons qu'il s'agit d'un espace remarquable qui doit être protégé avec les articles de la loi environnementale et d'urbanisme qui convient. Donc il s'agit de pérenniser cette protection. C'est notre but, c'est celui de la Vigie. Et il faut bien comprendre que c'est la zone que nous voulons protéger. Il ne s'agit pas de chercher plus loin.
Alors Jean-Baptiste Durand, vous le disiez, vous étiez finalement assez confiant parce que vous estimez avoir la loi avec vous. Mais bon, il y avait quand même tout de même... un mai. L'enquête publique s'arrête le 29 septembre. Tout un chacun peut donner son point de vue. Si les commissaires enquêteurs rendent un avis favorable, contrairement en 2011 où ils avaient rendu un avis défavorable, là, s'ils rendent un avis favorable, quelle sera votre réaction et vos actions ?
Tout d'abord, il faut commencer par comprendre qu'il s'agit d'une procédure. Une procédure de pour un grand projet comme celui-ci, est tout à fait normal et légal. Il y a une enquête publique, et c'est tout à fait logique et normal. Les résultats de l'enquête publique sont des avis qui donnent aux préfets, aux représentants de l'État, les moyens de prendre une décision, mais je vous rappelle que la seule et unique capacité de décision appartient à l'État. Même s'il y a un avis favorable ou un avis défavorable...
Ça ne veut pas dire que le préfet va prendre la
absolument.
Même décision.
L'État décide derrière, en homme et conscience, je ne puis dire, mais si moi j'aurais préféré qu'en homme et conscience, les dirigeants d'aujourd'hui aient stoppé cette gabegie, parce qu'elle aboutira en les recours. Et même si l'État dit oui, et bien évidemment, il reste encore la juridiction pour pouvoir dire que nous ne sommes toujours pas d'accord. Et là, il faudra examiner les textes et là, nous continuerons donc à agir dans ce sens.
Jean-Baptiste Durand, merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de l'association La Vigie, association opposée à ce projet de port à Bretignolles-sur-Mer. Et puis j'ajoute que ce même temps d'antenne a été proposé au porteur du projet qui n'a pas souhaité répondre à nos questions pour le moment. Chers amis auditeurs, merci à tous de nous avoir suivis.